Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, formule célèbre qui vient de notre évangile et qui est devenue pour nous presque comme un proverbe, comme une formule que nous connaissons dans notre société, voire même comme le fondement, bien souvent, de ce que nous voulons dire sur la laïcité, c'est-à-dire sur la séparation du domaine du religieux et du politique. En fait, à la base, ça a été un tour de passe-passe absolument génial de la part de Jésus pour se sortir du piège que les Hérodiens lui tendaient. En effet, lui demandant s'il fallait payer l'impôt aux Romains, je vous rappelle que les Romains étaient la puissance envahissante. Ils étaient, je dirais, sous la houlette des Romains, comme les Français en 40 étaient occupés par l'Allemagne nazie. Et donc, c'était un piège, parce que soit Jésus disait qu'il fallait payer l'impôt aux Romains, auquel cas il passait pour un mauvais juif et un collabo, soit il disait qu'il ne fallait pas contribuer à l'impôt romain, auquel cas, eh bien, c'était un bon juif, mais il pouvait être immédiatement jeté en prison ou condamné à mort pour rébellion face à l'État. Et donc Jésus était coincé, en quelque sorte, et une fois de plus, je suis très fier de mon Seigneur qui était malin comme un singe et qui arrive à trouver une réponse qui le tire d'affaire en répondant ben, ni oui ni non. Voilà. En fait, il dit, écoutez, bon, très bien, en gros, payez si vous voulez, mais n'oubliez pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'en effet, quand on dit rendez à César ce qui est à César, on le comprend, c'est-à-dire, très bien, jouer le jeu de la société. Mais il ne faut pas oublier que Jésus a dit aussi, mais en plus, n'oubliez pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne faut pas oublier cette deuxième partie. Et donc, en séparant les deux, à la fois il dit, d'accord, vous pouvez payer l'impôt, mais n'en faites pas un acte religieux ultime, parce que payer l'impôt ou contribuer à la vie sociale de son pays, qu'il soit bon ou mauvais, n'est pas un devoir religieux. Ça n'est pas servir Dieu. Il peut y avoir des raisons matérielles de vivre dans la société ou de payer son impôt ou autre chose, mais ce n'est pas une question spirituelle. Alors cette séparation entre le spirituel et le temporel, entre les devoirs de la société et la vie religieuse, est quelque chose que nous connaissons bien, et auquel je dirais aujourd'hui que nous considérons comme une chose acquise, qui ne me semble pas si évidente que ça. À la base, il y a un fondement, surtout pour nous protestants, c'est ce qu'on a appelé la doctrine des deux règnes, la théologie des deux règnes qui était professée par Luther. Luther avait dit, écoutez, en fait, on vit dans deux règnes qui sont indépendants. Il y a le règne, le monde matériel, qu'il y a des lois politiques, qu'il y a des exigences, qu'il y a des règles, et puis il y a le règne de Dieu, qui est le monde du spirituel, de la foi, de l'amour, de la grâce et de la générosité, et les deux règnes sont indépendants. C'est-à-dire qu'il faut obéir aux lois de son pays, mais l'obéissance aux lois de son pays ne sont pas un devoir religieux. C'est-à-dire, ça ne fait pas son salut, c'est juste quelque chose de commode pour vivre ensemble. Et par ailleurs, il y a le règne du spirituel, et qui est d'un autre ordre, parce que c'est pas la même chose. Donc, Luther, nous dit-on, nous enseigne-t-on, professait la séparation entre ces deux règnes, indépendance entre le règne de Dieu et le règne du monde. Cette théorie, on la proclame souvent et elle plaît à tout le monde. Je vous l'ai dit, elle en particulier, on la trouve comme une sorte de fondement à la laïcité de notre société d'aujourd'hui et comme une justification de la séparation de l'Église et de l'État. Donc il y a l'État qui est notre vie sociale et puis le religieux, eh bien il faut le reléguer dans l'intime. Donc autrement dit, pratiquez votre religion chez vous, mais ne mettez pas de signes religieux dans la ville, parce que cela, votre religion ne regarde que vous. Par conséquent, vous pouvez obéir à votre religion tant que cela ne contredit pas les lois de la République, puisque aujourd'hui, nous sommes en République. Donc séparation de l'Église et de l'État, et finalement tout le monde trouve ça très bien. Et théologie des deux règnes selon Luther, on y adhère plus ou moins, mais en fait, personnellement, je crois que c'est faux. Je n'y crois pas du tout. Je ne pense pas qu'on puisse séparer le règne de Dieu du règne du monde. Et je ne crois pas même qu'on puisse séparer notre vie religieuse de notre engagement dans l'État et dans la société. Est-ce que vraiment il n'y a aucun lien entre notre vie profane et notre vie religieuse? Enfin, dire une chose pareille est absolument insensé. Et est-ce que vraiment Luther a voulu dire une chose pareille? Ça m'étonne, vraiment ça m'étonne. Parce que cela voudrait dire que quelqu'un pourrait se comporter comme un gredin toute la semaine, tant que le dimanche, alors il va à l'église, tant qu'il fait bien ses prières, alors tout irait bien, parce qu'il y a les deux règnes. Donc je pourrais me comporter comme un, peut-être pas comme un salaud, mais comme un type d'une effroyable dureté, d'être dur, violent, impitoyable toute la semaine. Et puis ensuite, si par ailleurs j'ai une vie de prière et de piété remarquable, tout va bien. On sent bien que ça ne va pas, enfin, je ne pense pas que ça puisse aller. Et d'ailleurs, cette idée de la séparation des deux règnes m'a toujours étonné. Il faudrait que je relise Luther, mais c'est compliqué parce que Luther, il y a beaucoup et je ne peux pas tout lire. Mais ça m'a toujours étonné parce que, en fait, je trouve cette idée de la séparation des deux règnes me semble totalement opposée à la prédication du Christ et en particulier à notre sensibilité protestante. Vous savez que dans le protestantisme, il y a une chose qui est très, très ferme, je dirais, c'est justement tout le contraire, c'est-à-dire le refus de la séparation entre le sacré et le profane. Donc il n'y a pas le sacré d'un côté, le profane de l'autre. Les mauvaises langues disent « Ah oui, chez vous, les protestants, rien n'est sacré ». Non, ce n'est pas ça, c'est que tout est sacré. Et que par conséquent, il n'y a pas un lieu religieux où les enfants n'auraient pas le droit de jouer au ballon, n'auraient pas le droit de parler fort, et puis des lieux non religieux où on pourrait faire n'importe quoi. Mais pour un protestant, tout lieu est sous le regard de Dieu, et nous sommes partout dans le temple de l'Éternel. Et notre piété n'est pas quelque chose qui serait séparé de notre vie de tous les jours. Depuis la Réforme, on nous enseigne que notre façon de vivre fidèlement à Dieu, elle ne se trouve pas que le dimanche au culte ou à la messe, mais elle se trouve dans la vie de tous les jours. Et qu'en fait, c'est dans notre manière de vivre avec nos prochains, de vivre dans notre métier, dans notre travail, si humble soit-il, que nous vivons notre vie spirituelle. Et la fidélité à l'Évangile n'est pas que dans le moment où nous serions dans la prière ou dans un rite, mais notre fidélité à l'Évangile, elle est du soir au matin et du matin au soir. Elle est sur notre lieu de travail, dans le métro, dans notre chambre à coucher, la nuit quand je dors, quand je fais la moindre des choses, je fais tout pour la gloire de Dieu. Et donc justement, non, je dirais, il n'y a pas dans l'Évangile, de séparation entre la vie profane et la vie spirituelle. Et Jésus lui-même, dans l'Évangile, chaque fois qu'il montre quelqu'un comme un exemple de foi, c'est quelqu'un qui n'a aucune religion. C'est l'histoire du centenier, là, vous savez, le centurion romain, où Jésus dit « Jamais je n'ai vu une foi telle en Israël, ce centurion romain ». Eh bien, il croit ni en Jésus ni en Dieu, enfin on ne sait pas en quoi il croit, il ne pratique pas, il n'est pas religieux, est-ce qu'il prie? Je n'en sais rien, est-ce qu'il croit en la Trinité? Peut-être pas. Et pourtant Jésus dit, il a la plus grande foi, et parce qu'il a fait preuve de générosité, de compassion, de miséricorde. Ou encore la syrophénicienne dont Jésus dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens ». Et il dit finalement « Elle a plus de foi que tout Israël parce qu'elle a fait preuve d'humilité ». Et Zachée sur son arbre, pareil, enfin on pourrait multiplier les exemples. À chaque fois, ces exemples de foi sont des gens qui ont une conduite, un exemple de générosité, d'humilité. Et cela culmine à la fin de l'évangile de Matthieu. Dans ce qu'on appelle le jugement des nations, quand Jésus dit, je vais vous dire en fait tout le sens de l'évangile. Voilà, c'est comme le maître qui sépare les brebis des boucs, les bons, les mauvais d'un côté, et en fait ceux qui sont bons, donc les sauvés, ne sont pas ceux qui ont fait preuve de grande foi, de piété, d'actes religieux, de rites ou d'autres choses. Et ils disent, mais pourquoi nous on est sauvés? Il dit, ben parce que j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez visité, nu, vous m'avez vêtu. Il dit, mais on ne te connaît même pas Jésus, on ne sait pas qui tu es. Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est comme si vous me l'aviez fait à moi. Et donc voilà, finalement, la conclusion de l'évangile qui finalement montre que la vie religieuse, c'est la vie de tous les jours et c'est notre manière de vivre tous les jours. C'est une religion qui se vit dans le quotidien. Donc, excusez-moi, mais cette histoire de séparation du sacré et du profane, vraiment, je crois que ça ne colle pas. Et dire « rendre à César ce qui était à César et à Dieu ce qui est à Dieu » comme si on pouvait couper en deux notre vie entre le religieux et le profane, ça ne tient pas. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Voilà, du coup, je vous ai dit, c'est plus compliqué que prévu. Il y a une hypothèse radicale que je vous cite, mais à laquelle je ne crois pas. Donc, bon, je vous la cite quand même par honnêteté. Il y a une hypothèse qui est la suivante, qui est de dire « Jésus, en disant cela, ne légitime pas du tout d'accomplir un devoir civique pour un régime scélérat, mais il prend au piège les Hérodiens. Il leur demande, est-ce que les Hérodiens demandent à Jésus, est-ce qu'on peut payer l'impôt ?» Alors Jésus leur dit, mais vous avez quoi dans la poche là, dites-moi? Et ils disent, ben, on a des pièces de César. Et il leur dit, ben, dans le fond, ça veut dire que vous collaborez déjà avec le pouvoir. Donc ne soyez pas hypocrites. Puisque vous utilisez le mode de fonctionnement de cet État scélérat, eh ben, contribuez-y, soyez cohérents. Mais justement, ne prétendez pas d'un côté collaborer avec l'ennemi et d'un autre côté dire que vous êtes religieux. Donc vous collaborez, assumez. Mais sous-entendu de la part de Jésus, moi, je n'ai pas de pièces de César dans ma poche. Et donc choisissez votre camp, mes lapins. Soit vous choisissez César, soit vous choisissez Dieu. Mais vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Et comme si justement Jésus lui-même pensait qu'il ne fallait pas avoir de concessions par rapport à un pouvoir corrompu et que donc il fallait être radical, si vous voulez, et ne servir que Dieu et n'avoir rien de commun avec un État, quel qu'il soit. C'est une hypothèse, je vous l'ai dit, personnellement je ne crois pas qu'elle soit juste parce que ce n'est pas cohérent avec l'attitude de Jésus d'habitude. Est-ce que vraiment Jésus n'a jamais eu de pièces dans sa poche? Si, à un moment donné, il paye l'impôt avec la 10 drachmes qu'il sort du ventre du poisson. Ensuite, Jésus avait de l'argent avec ses disciples. Ils avaient une bourse avec des sous. Ils avaient même un trésorier. Bon, pas très bien choisi, je reconnais, hein, d'après l'évangile de Jean, c'était Judas, donc c'était pas top comme trésorier, mais néanmoins, ils avaient quand même de l'argent. Alors vous me direz, l'évangile de Jean n'est peut-être pas historique. Oui, mais en même temps, non. Ce que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais été un prédicateur visant à se révolter contre le pouvoir en place. Justement, ça, c'était le propre de ce qu'on appelait les zélotes, qui voulaient chasser les Romains, lutter contre l'envahisseur et rétablir le royaume d'Israël dans toute sa pureté. Jésus n'a jamais été un zélote radical. Il ne s'est pas opposé frontalement au pouvoir romain. Ça a d'ailleurs été une déception et certains disent que ça a pu être justement ce qui a expliqué la trahison de Judas, qui aurait été déçu sur ce point parce que Judas se disait « il va nous sauver, il va foutre les Romains dehors ». Et Jésus a une sorte de passivité à l'égard de l'État que Judas ne comprend pas et donc il se sent trahi et il élimine Jésus. Bon, bref, cette solution de ce Jésus intégriste religieux ne me convient pas. Et donc je garderai quand même cette idée de la séparation des deux règnes. Oui, on peut servir à la fois Dieu et l'État. On peut être à la fois dans le monde et dans le royaume de Dieu. Il y a deux règnes qui coexistent et nous avons un pied dans chacun. La question c'est comment articuler ce lien? Et justement, comme je vous l'ai montré, je ne crois pas qu'on puisse faire de cloisons étanches en séparant les deux, mais il y a forcément quelque chose en lien entre les deux qu'il faut trouver. Je vous l'ai dit, Jésus ne s'est jamais opposé frontalement au pouvoir en place. C'est d'ailleurs une question. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Il faut parfois des révolutionnaires, hein. Je pense que c'est des révolutionnaires, il en faut, qui se battent contre un pouvoir, contre un État. Mais Jésus ne l'a pas fait. Ce sera un autre débat. Jésus ne l'a pas fait. En fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était toujours dans l'attention aux personnes. C'est-à-dire que c'est toujours individuellement l'attention à chacun, et il a toujours dénoncé quand l'un était sujet à quelque chose d'injuste, à une injustice, à une oppression ou une autre. Donc Jésus s'est toujours préoccupé des personnes. Et tiens, c'est peut-être ça la clé, justement. La préoccupation à la personne, la préoccupation à l'individu. Peut-être que la clé, l'articulation entre ces deux royaumes de Dieu et de César, elle se trouve dans l'attention à la personne. Et finalement, je crois que c'est ça qui permet de s'orienter là-dedans. On le voit déjà dans la réponse de Jésus aux Hérodiens. Les Hérodiens lui posent une question. Faut-il payer l'impôt à César ? Et Jésus, au lieu de donner une réponse absolue, péremptoire, en disant « oui, il faut payer » ou « non, il ne faut pas payer », qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par s'intéresser à eux et il leur dit « avant de vous répondre, vous allez me dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez dans votre poche ?» Et donc il renvoie à eux et il va dire « bon, alors vous avez des pièces de César dans votre poche, donc vous coopérez et vous profitez du système. Pourquoi pas, dit Jésus, je ne condamne pas cela, mais n'oubliez pas Dieu, n'oubliez pas le royaume de Dieu. Et donc, même si vous faites cela, n'oubliez pas de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Parce qu'en effet, il faut effectivement comprendre on peut faire, Jésus ne juge pas ce que font les gens, mais qu'il ne faut pas oublier de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut rendre à Dieu ? Voilà, venons-en à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu, en fait ? Voilà la question. J'y répondrai de la même manière que Jésus l'a fait avec les Hérodiens. Jésus leur dit, cette pièce appartient à César parce qu'il y a dessus l'image de César. Donc je continue mon raisonnement pour savoir ce qui appartient à Dieu, où se trouve l'image de Dieu qu'il faut rendre à Dieu. Là, la réponse, elle est simple, c'est dans la Genèse, chapitre 1, verset, je ne sais plus quoi, peut-être 27, où il est dit « Dieu créa l'homme à son image ». Donc voilà, on a deux images. L'image de César, elle est sur une pièce de monnaie, et l'image de Dieu, c'est l'humain, c'est l'homme. Et donc, il y a là une préoccupation, justement, de dire « il faut rendre à Dieu l'humain, c'est-à-dire la personne, l'attention à la personne, et que c'est ça qu'il nous demande ». Et d'ailleurs, je pense que j'ai raison là-dessus parce qu'il y a une autre curiosité du texte. Quand je vous l'ai lu, les Hérodiens disent à Jésus « Nous savons que tu ne regardes pas à l'apparence ». Mais en fait, ce n'est pas ça qui est écrit. Il est écrit textuellement « Nous savons que tu ne regardes pas le visage de l'homme ». C'est étonnant ça. Les Hérodiens disent à Jésus « Tu ne regardes pas le visage de l'homme » et l'homme qui est, d'après la Bible, l'image de Dieu. Or justement, c'est faux ça. Les Hérodiens disent à Jésus, tu ne regardes pas le visage de l'homme, mais si, Jésus ne fait que ça. Justement, il ne fait que ça. Les Hérodiens pensent que Jésus est un intégriste et ils attendent de lui une loi universelle, soit collaboration pure, soit religion pure et révolte contre l'occupant. Mais justement, Jésus n'est pas ça. Dans la question même, les choses étaient déjà faussées. Parce qu'il pensait, il voulait une réponse d'intégriste. Et Jésus n'est pas un intégriste. Parce que justement, l'intégriste, il ne s'intéresse pas aux personnes. L'intégriste, il est dans les lois, dans les traditions, dans les principes. Et la personne n'a qu'à, se soumettre aux lois, se soumettre aux traditions, se soumettre aux principes. Et peu importe qu'il y ait des gens exclus, qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas leur place dans l'Église. L'Église doit maintenir une sorte de règle, une sorte de loi, une sorte de vérité absolue, comme un rouleau écraseur. Et puis s'il y a des gens qui ne tombent pas dedans, tant pis. Jésus est tout le contraire d'un intégrisme. Et s'il dirigeait aujourd'hui l'Église, je pense qu'il serait prêt justement plutôt à accueillir quelqu'un parce que c'est une personne, là, même si ce n'est pas tout à fait dans les clous de la règle, de la constitution de notre Église, bon, écoutez, ce n'est pas grave, mais l'attention à la personne, voilà, l'attention à la personne. Et je crois que, justement, pour les Hérodiens, finalement, on était soit dans l'un, soit dans l'autre, et Jésus dit non, les deux peuvent être liés, vous pouvez servir César, mais dans tous les cas, n'oubliez pas l'attention à la personne. Et donc, vous voulez utiliser l'argent de César? Jésus dit, écoutez, pourquoi pas, ne jugez pas des gens, ne jugez pas des gens. Il ne condamne pas les Hérodiens de collaborer avec l'ennemi. Ne jugez pas, mais n'oubliez pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire l'attention aux personnes. Et donc, Jésus n'est ni dans l'intégrisme religieux, ni dans la permissivité qui ferait dire « écoutez, faites n'importe quoi, je m'en fiche ». Il est dans l'articulation entre les deux. Et quand tu parles à ton prochain, commence par ne pas juger, parce que tu ne sais pas ce qu'il a dans ses poches, justement, comme les Hérodiens avaient des pièces. Tu ne sais pas les valises qu'il trimballe, tu ne sais pas les traumatismes qu'il a subis avant, tu n'en sais rien. Et donc arrête de juger les personnes en essayant de leur appliquer des règles sur ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire, comment ils devraient se comporter. Première règle, accueille, comme Jésus accueille les Hérodiens. Vous collaborez avec le pouvoir, et bien écoutez, allez-y, mais n'oubliez pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui ne veut pas dire rajouter des actes religieux dans votre saloperie profane, mais ça veut dire n'oubliez pas de toujours ne pas regarder que l'image de César sur la pièce de monnaie, mais de regarder l'image de Dieu dans le visage de votre prochain. Attention à la personne. Donc vous voyez, on n'est pas dans une séparation des deux règnes, en fait, où il y aurait le spirituel d'un côté et le matériel de l'autre. Mais c'est une invitation à faire entrer l'humain dans le royaume de Dieu. Et ça, j'y tiens, en tant que, j'allais dire, responsable d'église et soumis à une église. Que je ne peux pas dire autre chose, de dire n'oubliez pas, à mes chefs là, n'oubliez pas l'humain, l'individu, la personne à accueillir dans votre église. Et dans votre rapport au monde, écoutez, j'en sais rien, votez pour Mélenchon, Pécresse, Macron, qui vous voulez, je n'en sais rien, mais soyez attentifs toujours à la personne. Et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, eh bien, ce n'est pas un devoir religieux séparé de ma vie quotidienne, mais c'est dans ma manière de vivre avec mes proches, dans ma manière de vivre quotidiennement, et cette attention à la personne, je crois, est justement la synthèse, je dirais, de ce César et de Dieu dans ma vie. Alors maintenant, cette synthèse, je reconnais qu'elle n'est pas commode. Parce que même si nous ne sommes pas aujourd'hui dans une société dramatiquement scandaleuse, comme pouvait l'être Jésus à son époque, néanmoins, donc aujourd'hui, les lois du monde, les constitutions, les normes sociales et tout ça, donc pas de problème, j'adhère, je les applique, mes coutumes, et je pense, je les assume et je les respecte. Mais en fait, en tant que croyant, je suis sans arrêt tiraillé entre les lois du monde et les exigences du royaume de Dieu. Parce que les lois du monde, c'est des règles de fonctionnement social, de justice et d'autres. Le royaume de Dieu, c'est autre chose, c'est la générosité, c'est l'accueil et c'est le don. Et le problème, c'est que c'est pas simple, ça, dans ma vie. Je suis pour l'accueil, mais je ne peux pas accueillir chez moi tous les pauvres de la rue. Je ne peux pas donner à manger à tous ceux qui ont faim. Et donc, je suis moi-même, sans cesse, dans ce monde, écartelé, je dirais crucifié, entre une sorte d'idéal chrétien infini et puis une sorte de réalité concrète qui fait que je ne peux pas. Et finalement, tout le monde est comme ça. Je dirais, si le boulanger qui vend son pain, s'il était chrétien, il verrait chaque client en disant « Mais mon ami, mon frère, mon pain, je ne te le vends pas, je te le donne. » Comme une mère donne à manger à son enfant sans lui faire payer, si le boulanger aimait son prochain, il offrirait le pain. Et le juge, s'il était chrétien, il n'enverrait personne en prison. Et il dirait, mais mon enfant, tu as chuté, mais Dieu t'aime et je te pardonne. Et le professeur, s'il était chrétien, mettrait 20 sur 20 à tout le monde, parce qu'il ne voudrait pas faire de la peine à un élève. Donc c'est pas possible. On voit bien que ça ne marche pas. Alors comment s'en sortir dans ce dilemme, j'allais dire, des deux royaumes qui nous écartèlent? Alors je vais vous dire. Je pense d'abord que l'Évangile nous invite à relativiser justement les choses de ce monde. Et donc finalement, tout ce qui se passe dans ce monde n'est pas d'une importance ultime. Donc désolé pour les étudiants qui passaient des concours, que vous ayez 5, 10 ou 20 sur 20 à votre devoir ou à votre examen, en fait, ça n'a aucune importance. Ne croyez pas que c'est ça qui va vous sauver, qui va même vous donner le bonheur de votre vie, c'est pas ça qui va vous donner l'accomplissement de votre existence. Donc je crois que le professeur qui dit « je vais donner 20 sur 20 à tout le monde », c'est pas franchement une bonne idée. Et donc les choses de ce monde sont en fait secondaires et par conséquent, c'est pas très grave. Ensuite, l'individu a besoin des lois de la société. Donc quand je vous disais « l'Évangile nous invite à prendre soin de la personne », eh bien oui, paradoxalement, ça suppose de respecter les lois. Parce que l'individu a besoin de la société et la société a besoin de lois pour vivre ensemble. Et donc, jouer le jeu du monde, c'est finalement pour le bien de tous. Sinon, on est dans le chaos et dans le malheur. Je dirais, si le juge laissait tous les malhonnêtes en liberté, la société exploserait. Si on donnait 20 sur 20 à tous ceux qui passent les concours, ce serait n'importe quoi. Si le boulanger distribuait le pain, il mourrait de faim et pourrait plus s'occuper de sa famille. Et donc, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'attention à la personne, elle n'est pas matériellement dans ce que l'on fait, mais elle est peut-être plus dans la manière d'appliquer la loi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et en effet, je pense qu'on peut faire payer 1 euro ou 20 ou 30, je ne sais pas quoi, sa baguette à quelqu'un, tout en faisant en sorte que la personne à qui on vend cette baguette soit accueillie et reçue. Et qu'on peut mettre une mauvaise note à un élève, mais tout en faisant en sorte que cet élève se sente accompagné et compris. On peut même envoyer quelqu'un en prison, mais à condition que celui-là soit aussi reçu comme personne, ne soit pas jugé comme individu, jugé pour ses actes, il le faut, mais qu'il ne soit pas condamné pour le jugement éternel. Et donc oui, dirais-je, obéissez aux lois de la République, mais avec toujours ce correctif et cette manière de faire qui permet de faire en sorte que les lois sont appliquées d'une façon humaine, avec une attention à la personne. Et peut-être même avec un correctif, si vous voulez, par rapport à cela. Et donc la société, oui, je plaide plutôt pour un ordre social, vous voyez, je fais tout à fait ce qu'attend de moi la République, mais ça risque de se gâcher un peu dans les minutes qui viennent, je vous demande d'attacher vos ceintures, parce que la société, je suis pour la défendre et je défends les lois, mais en même temps, ce n'est pas la société qui est à l'image de Dieu. C'est la personne, je vous l'ai démontré tout à l'heure. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est l'individu qui est l'image de Dieu, ça n'est pas la société. Par conséquent, si la société, à un moment ou l'autre, asservit, maltraite un individu, alors elle n'a plus mon adhésion. Et ainsi, la phrase de Jésus n'est non pas une phrase pour séparer les deux règnes et pour dire accepter n'importe quoi du règne de César, mais c'est une mise en garde pour relativiser le pouvoir humain. La société n'est pas Dieu. La société, elle est représentée par la monnaie. C'est une image humaine. Elle n'est pas Dieu. L'image de Dieu, c'est mon prochain. Et donc, obéis aux lois, d'accord, mais je dirais, sois prêt à désobéir s'il y avait un problème d'attention à la personne. Et là, on arrive dans un sujet assez compliqué parce que, en ce moment, dans notre société, il y a des débats sur la laïcité. Et on a condamné très fermement tous ceux qui disent mettre la loi de Dieu au-dessus des lois de la République. On a dit que ce n'était pas bien. Le problème, c'est que moi, je suis prêt à le dire, qu'il faut mettre la loi de Dieu au-dessus des lois de la République. Je crois que si un imam disait ça dans un sermon aujourd'hui, sa mosquée serait immédiatement fermée par les pouvoirs. Donc je ne sais pas si Darmanin écoute mon sermon, avec un peu de chance, il ne l'écoute pas. Mais en tout cas, je suis prêt à dire, moi, figurez-vous, que je peux mettre la loi de ma conscience ou la loi de Dieu au-dessus des lois de la République. Parce que surtout les protestants le savent. Révocation de l'édit de Nantes en 1685. Le protestantisme est interdit. Et là, certains de mes ancêtres ont dû quitter la France à pied, fuir. Certains ont été envoyés aux galères, tués pour leurs questions de religion et de foi. Et à ce moment-là, ils n'ont pas dit « c'est merveilleux, le pouvoir nous demande ça, donc on cède ». Et donc il peut y avoir des pouvoirs scélérats. Et il y a eu aussi, et même dans ma famille, je dirais que pendant la guerre de 40, des gens qui ont désobéi au pouvoir et qui ont sauvé des enfants juifs, si vous voulez. Donc voilà, je vous le dis, moi, je suis prêt pour Dieu à sauver un enfant juif, même si la loi me l'interdit. Et je suis prêt, pour une question de conscience, à dire, eh bien, désolé, ma foi est au-dessus de la société. C'est comme ça. Alors, en tant que protestant, oui, j'obéis aux lois, parce que je crois que les lois de la société sont importantes, je vous l'ai dit. Hein, je pense que dans une société, tout le monde ne peut pas faire tout ce qui lui passe par la tête. Et donc, chacun de nous avons besoin d'une société qui vive en paix, avec des lois globalement admises par tous. Mais ensuite, ce que je mets au-dessus de tout, c'est l'attention à la personne individuelle. Et je serai toujours prêt à transgresser une loi pour sauver une personne. Alors, c'est une bonne référence, si vous voulez, c'est pas chez les islamistes, mais chez l'abbé Pierre, qui pourtant est plutôt bien vu. Je le cite. Voilà ce qu'il a dit, l'abbé Pierre. Il y a une loi avant les lois. Pour venir en aide à un humain sans toit, sans pain, sans soins, il faut braver toutes les lois. Alors voyez, dans question complexe, hein, je ne prétends pas donner la solution, mais j'ouvre des portes et des pistes. Hein. Mais dans sa prière pour ses disciples, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, la prière sacerdotale, Jésus dit, à propos des disciples, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Eh bien oui, mes amis, nous sommes dans le monde et nous devons y être. Nous devons nous y engager, nous devons y agir, y combattre, et avec les lois du monde, nous appliquons les lois du monde. Mais notre royaume est au-delà du monde. Notre espérance, elle est au-delà de ce que nos politiciens nous promettent. Ce ne sont pas eux qui nous sauveront, ce ne sont pas eux qui nous donneront le sens à notre vie. Et simplement, ce que je crois, c'est que quel que soit le monde où nous sommes plongés, nous vivons déjà dans le royaume de Dieu. Et ça, j'en rends grâce, car ce royaume de Dieu dans lequel nous vivons, où que nous soyons, est un royaume de paix, d'amour, d'espérance et de vie. Et nous sommes invités à faire avancer dans ce monde l'image de ce royaume de Dieu pour que nous puissions et que le plus grand nombre dans ce monde puisse vivre de paix, d'amour, d'espérance et aussi en étant reçu, accueilli et reconnu comme une personne. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 2103, page 232, 2103, « Me voici, Seigneur Sauveur ».